Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromit się wrobisz.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Jamais l'Europe n'a tenu autant de place dans une élection présidentielle, à tel point que cette élection prend le chemin d'un référendum pour ou contre l'Europe. Sur les 11 candidats à la magistrature suprême, un seul fait applaudir l'Europe lors de ses meetings, 3 s'en accompagnent peu ou prou, et 7 estiment que l'Europe et l'euro sont les grands responsables des malheurs de la France et qu'il faut s'en détacher plus ou moins vite. Nous avons posé nos micros à Bruxelles au Parlement européen et réuni 6 eurodéputés, soit un par groupe parlementaire. Je vous les présente par ordre alphabétique. Nathalie Griesbeck, elle est du Modem en France, elle soutient Emmanuel Macron. Gilles Le Breton, Front National soutient Marine Le Pen. Constance Le Grip, Les Républicains, évidemment François Fillon. Édouard Martin, Parti Socialiste, Benoît Hamon. Michel Rivasi, Europe Écologie Les Verts, elle aussi Benoît Hamon. Et Marie-Christine Verja, Jean-Luc Mélenchon, elle soutient Jean-Luc Mélenchon et elle est évidemment du Front de Gauche. À mes côtés, Céline Scheul. Bonjour Céline.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante à Bruxelles du quotidien La Croix et vous avez écrit en compagnie de 4 eurodéputés dont 3 sont présents autour de cette table, l'Europe des citoyens aux éditions du Cherche Midi. Avec l'idée centrale, on peut réunir 4 eurodéputés de 4 partis différents et partager quelques idées. C'est un peu ça l'idée centrale?
C'est un peu ça l'idée, qu'il y a des eurodéputés, même s'ils sont issus de groupes différents, qui sont capables de questionner les limites du consensus et de les dépasser pour essayer de partager eux-mêmes des idées communes.
Ça a été difficile de les rassembler, les faire parler?
On a fait un choix avec l'ONG l'Europe des citoyens qui a été de choisir seulement des eurodéputés pro-européens car on s'est dit qu'essayer de travailler avec des députés dont le seul but est de détricoter l'Union européenne n'allait peut-être pas
être compliqué.
C'est ça, ça n'allait pas être facile. Donc à partir de là, tous sont pro-européens et donc partagent quand même l'idée que l'Union européenne a un avenir. La question est quel avenir façonner ensemble.
Alors on devrait à l'issue de cette émission en avoir peut-être pas, en tout cas quelques pistes, quelques idées. Céline, c'est peut dire que cette élection présidentielle française intéresse et inquiète l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on en dit dans les couloirs du Parlement européen, de la Commission, enfin dans ce qu'on appelle les institutions bruxelloises?
Eh bien, récemment, Jean-Claude Juncker a été interrogé quant à la potentialité d'une élection de Marine Le Pen. Il a dit que si cette élection avait lieu, il porterait ses habits de deuil. Donc c'est sûr que l'idée d'une Europe qui s'apprête peut-être à mourir, selon le résultat de ces élections, inquiète à Bruxelles. Il n'y a aucun doute là-dessus. Dans les couloirs du Parlement européen, les Français disent que notamment les Italiens, les Espagnols, les interrogent régulièrement quant aux futures politiques de la France, parce qu'ils conditionnent en une certaine manière le futur politique de l'Union européenne.
Dans les couloirs, on vous a le pad, on vous dit, alors tu as des derniers sondages, tu dis comment ça va se passer le 7 au soir
Moi, pas spécialement, mais dans le sens où on voit bien que les eurodéputés entre eux en discutent et se demandent vers où va l'Union européenne à cause de cette incertitude qui encadre la campagne française.
Alors on va faire un premier tour de table en une minute maximum, sinon nous n'y arriverons pas. Un tour de table un peu bilan pour les candidats que vous représentez. La construction européenne a-t-elle été bénéfique pour les Français? On a fêté 60 ans de construction européenne à Rome à l'occasion des 60 ans du traité de Rome. Et on a l'habitude de dire que l'Europe, ça a été la paix, la démocratie, l'état de droit et le respect des minorités, qu'elles soient ethniques, religieuses, sexuelles, et une relative prospérité qui a accompagné la création et le développement de l'Europe pendant 60 ans. D'ailleurs, si on prend un repère, les réfugiés qui quittent leur pays veulent tous venir en Europe. Ça leur viendrait jamais à l'idée d'aller dans les pays du Golfe ou même en Russie. Alors, un petit tour de table, on va prendre l'ordre alphabétique. Nathalie Griesbeck, 60 ans d'Europe en une minute, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire?
En une minute, c'est de dire que l'idéal européen a besoin aujourd'hui plus que jamais d'être retravaillé et d'être approfondi. Pour un certain nombre de générations, l'Europe c'est la paix, c'est encore la paix, mais ça ne parle plus de la même façon et avec le même écho aux générations d'aujourd'hui. Et donc il est très important au fond de consolider la construction européenne. J'ai l'impression, enfin dans le peu de temps qu'on a, moi j'étais à Rome pour fêter cet anniversaire et au-delà du symbole pour être auprès des milliers de jeunes qui militaient pour que on fasse à nouveau redorer le blason européen. Moi, j'ai le sentiment qu'on n'a jamais eu autant besoin d'Europe qu'aujourd'hui. L'Europe est dans toutes les bouches. Simplement, les gouvernants européens, par une forme d'hypocrisie, ont tellement passer de temps à instiller la défiance de l'Europe que aujourd'hui, dans l'opinion publique, oui, elle s'installe. Donc, plus que jamais, on a besoin d'y travailler, de combattre ceux qui, esprit chagrin, expliquent qu'il faut remonter des murailles, qu'il faut se replier sur nous-mêmes et qu'on trouvera les solutions. On peut pas trouver les solutions quand on est à 1% de la population du monde. Et donc, on a besoin d'Europe. Mais pas une Europe béate.
Ah, on va y
pas
venir,
une Europe béate,
Nathalie
Grisbeck. Une Europe solide, une Europe
Nathalie
qui sait où elle va.
Je rappelle que vous parliez au nom de, en tout cas, le soutien d'Emmanuel Macron. Gilles Le Breton. Front National, Marine Le Pen, 60 ans, on jette le bébé avec l'eau du bain ?
On ne peut pas s'exprimer comme ça, mais on est obligé de constater que l'Union européenne est un formidable échec. Alors, il faut le déplorer, bien entendu, on ne peut pas s'en réjouir, mais c'est ainsi. L'Union européenne nous avait promis la prospérité, et on voit bien ce qu'il en est. Il y a une extrême pauvreté partout, dans chaque pays membre de l'Union. Certains pays sont même totalement à la dérive, comme la Grèce. Elle nous avait promis l'amitié entre les peuples, et on voit bien que c'est une organisation qui crée de plus en plus de tensions. Et d'ailleurs, c'est assez préoccupant. Moi-même, au sein de ce Parlement, je n'arrête pas de voir des Polonais, des Hongrois qui se plaignent du traitement qu'il leur est réservé, puisque vous savez que la Hongrie, la Pologne ne sont pas d'accord avec, en particulier, la politique migratoire de l'Union et font de la résistance.
Mais le fait
et
à mon avis, d'accord, juste c'est la vie démocratique. On n'est pas d'accord en France. Oui. Il n'y a pas de raison qu'on soit spécialement d'accord en Europe.
Sauf que là, véritablement, les tensions croissent. Et puis, si vous voulez une autre preuve, eh bien, c'est la position tout à fait irresponsable de l'Union à l'égard de la Russie. On n'arrête pas dans cette institution de voter des résolutions qui sont insolentes, insultantes à l'égard de la Russie, qui est un grand peuple, et de Vladimir Poutine, qui est un président démocratique.
Mais là encore, on peut considérer que la Russie est un grand peuple et critique envers Vladimir Poutine. L'un n'empêche pas l'autre, encore une fois.
Oui, mais enfin, quand on lit le contenu des résolutions, elles franchissent la mesure. Il y a tout de même un langage diplomatique qu'il faudra respecter, qui n'est jamais respecté dans cette maison. Et puis, il y a plus grave. L'Union nous a porté une promesse de démocratie, et la démocratie en France a été bafouée de façon indiscutable, puisque le peuple français a rejeté par référendum en 2005 le projet de constitution européenne, et aussitôt fait, qu'a-t-on fait ? Eh bien, on a voté le traité de Lisbonne, qui est une réécriture en réalité de la constitution européenne. Donc on a bafoué la volonté du peuple français, et ça c'est très grave.
Constance Le Grip, Les Républicains, évidemment, soutien de François Fillon. Quand vous entendez et Nathalie Grisbeck et Gilles Le Breton, il se trouve qu'autour de cette table, vous êtes entre les deux. Votre position est médiane ?
Non, ma position n'est pas médiane du tout. Si vous interrogez la famille politique que je représente, Les Républicains, sur les 60 ans de construction européenne, je dirais qu'en 60 ans, on a effectivement fait de cette région du monde, de nos territoires européens, de nos territoires de l'Union européenne, un îlot de stabilité, de démocratie, de liberté, de droits de l'homme et de droits de la femme, j'insiste, très important, et de relative prospérité, je reprends vos propres termes. Maintenant, 60 ans, c'est un bel âge, c'est également un âge où on peut commencer à se poser quelques questions, se remettre peut-être
c'est
en cause,
retraite,
en question, certainement pas, c'est un âge où on peut à la fois tirer les fruits de l'expérience, mais avoir encore suffisamment d'allant, de dynamisme, d'envie, d'énergie pour aller plus loin. La famille politique Les Républicains est une famille de bâtisseurs, de constructeurs, pas une famille de débolisseurs. Nous sommes résolument européens, mais en même temps réalistes, lucides. Nous ne sommes pas pleinement satisfaits de la manière dont, par exemple, fonctionnent les institutions européennes. Mais je ne veux pas rentrer dans un débat institutionnel qui ne serait pas forcément passionnant à ce stade de l'émission. Et nous souhaitons aller plus loin et considérer quels sont les domaines où il faut plus d'Europe. Incontestablement, on peut définir trois grandes politiques, trois grands sujets sur lesquels il faut plus d'Europe, et considérer également quels sont, à côté de ces priorités stratégiques, de ces grandes compétences, les sujets sur lesquels, au fond, il n'est pas nécessaire que nous allions vers plus d'Europe, mais qu'au contraire, nous puissions redonner de la liberté et de la souveraineté aux peuples européens. Mais le bilan de 60 ans est un bilan
positif,
nous n'avons pas à rougir, mais encore une fois, lucidement, avec réalisme, j'entends les voix qui expriment des doutes, de la colère, de l'inquiétude, de l'anxiété, et qui nous appelle à faire face avec réalisme et responsabilité aux nouveaux défis de ce 21e siècle qui est extraordinairement dangereux.
Édouard Martin. un parti socialiste, soutien de Benoît Hamon. 60 ans d'Europe, quel bilan ?
Alors, à titre personnel, je trouve que c'est la plus belle idée de l'humanité d'après-guerre. C'est peut-être banal que de le répéter, puisque ça a été dit, mais avoir dans notre histoire commune une période de paix aussi longue, c'est du jamais vu. Donc ça, il faut le saluer, même si ça ne parle pas à tout le monde. Avoir un espace démocratique, quelles que soient les critiques qu'on peut amener, avoir un espace de liberté, y compris la liberté de voyager, de bouger au sein même de l'Union européenne, et un espace où, malgré tout, on essaye, loin de là, l'objectif est atteint, on essaie d'harmoniser des droits, c'est quand même pas rien. Et dans beaucoup de pays, et notamment les nouveaux entrants, la démocratie européenne a fait élever le niveau démocratique de ces pays-là. Donc je dis que c'est une très belle idée. Là, maintenant, effectivement, on est à mi-chemin, et j'entends aussi avec beaucoup de réjouissance que tout le monde veut réformer l'Europe, donc l'Europe des marchés existe, et même un peu trop. Il est temps maintenant de passer à l'Europe des citoyens, à l'Europe politique, et comment on donne un coup de collier supplémentaire à l'harmonisation fiscale, à l'harmonisation sociale, etc., etc. Donc voilà, la moitié du chemin a été parcourue. Maintenant, il reste l'autre chemin à faire. Et puis, là où j'étais aussi très très critique sur le traité de Lisbonne, l'hypocrisie ambiante dont ça a été dénoncé tout à l'heure des chefs de gouvernement, c'est terminé. L'époque, la politique de papa est terminée, puisque le Parlement européen aujourd'hui, on a le pouvoir, on est co-législateur avec le Conseil, et pas un accord bilatéral ou multilatéral sur le plan économique ne peut être ratifié sans le vote des députés européens. Et je vois avec beaucoup de tristesse que notamment l'initiative citoyenne 3,5 millions de signatures, eh bien malgré ça, le Parlement européen n'a pas tenu compte de la voix des citoyens puisqu'il a été voté. Donc il y a du chemin à faire encore.
Au milieu du guet, si j'ai bien compris votre position. Michel Rivasi, vous aussi soutien de Benoît Hamon à travers votre parti Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous diriez la même chose qu'Édouard Martin ?
Oui, je dirais tout à fait la même chose, mais quand j'ai entendu, moi, que l'Europe, c'est un formidable échec, mais c'est vous l'échec, hein, si je peux me permettre, le Front National.
Alors, vous vous adressez à Gilles Le Breton.
Oui, parce que c'est terrible de dire ça. Comme Édouard l'a dit tout à l'heure, c'est quand même, si on regarde au rétroviseur, 60 ans de paix, c'est très important. Et en même temps, moi qui suis écologiste, si on n'avait pas eu l'Europe, on n'aurait pas eu toutes ces directives sur la protection de l'eau, sur la protection de l'air, sur la protection des molécules chimiques. C'est quand même l'Europe qui a protégé, je dirais, la santé des citoyens européens. Là où, franchement, moi je trouve que après 60 ans, il faut se poser des questions fondamentales. Pourquoi l'Europe? Pour qui et comment? Pourquoi l'Europe? Elle a été définie, c'était l'histoire des 60 ans, la réunification des peuples qui étaient ennemis, etc. Et c'est le marché qui a été un peu l'élément fédérateur. Mais il faut aller au-delà maintenant. Pourquoi l'Europe? C'est par rapport à des valeurs, c'est par rapport à la solidarité, c'est par rapport à ce qu'on a dit sur l'équilibre des genres. Et ça, c'est vraiment, il faut réaffirmer les valeurs de l'Europe. Pour qui? Moi, je dirais maintenant, c'est vraiment pour les citoyens européens. Il faut qu'elle soit plus démocratique. Parce que les gens ont l'impression que l'Europe, maintenant, c'est un peu l'Europe des lobbies. Vous voyez, c'est l'Europe de gens qui ont le pouvoir et qui ne veulent pas le redistribuer. D'où l'histoire des paradis fiscaux, etc. D'où l'histoire qu'il faut harmoniser. Harmonisation fiscale, lutte contre le dumping social, faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas des paradis fiscaux. Vous voyez, il faut se poser ces questions fondamentales. Et comment? Mais il faudra revoir les institutions. Parce que c'est des institutions qui sont très loin du peuple. Et quand on lance des initiatives citoyennes européennes, ben on s'aperçoit que le peuple n'est pas écouté. Donc vous voyez, tous ces déficits, il faut les analyser pour proposer un nouveau projet. Et l'Europe, ce qui nous a fait rêver, c'est qu'il va falloir qu'on ait des projets porteurs. C'est-à-dire qu'on réfléchisse à une union sur l'énergie, qu'on réfléchisse sur comment faire en sorte à faire une coopération sur la recherche et le développement. C'est ça qui fera que l'Europe va exister. Et c'est ça qui va entraîner aussi une prospérité à partir du moment où elle est partagée par l'ensemble et pas détenue, confisquée par une minorité. Et je trouve qu'on est à un moment crucial. Et je suis surprise que pendant ces élections présidentielles, on ait autant d'eurosceptiques. Mais les gens croient quoi? Qu'on va s'en sortir la France toute seule? Vous croyez que on est fort qu'à partir du moment où on est ensemble, où on joue la coopération, la mutualisation, et non pas la concurrence, et non pas la haine, comme c'est souvent fait par certains membres qui se présentent à la présidentielle. Donc, Pour moi, c'est un défi majeur à l'heure actuelle. Et franchement, quand on écoute le discours de Benoît Hamon, le discours d'Emmanuel Macron, qui sont vraiment des pro-européens, mais il faut qu'on définisse le projet ensemble. Et c'est pas que quelques-uns qui vont le définir. C'est ensemble qu'on doit le définir.
Allez, on termine ce tour de table avec vous, Marie-Christine Berger, à Front de Gauche, et donc soutien de Jean-Luc Mélenchon. 60 ans d'Europe, qu'est-ce que vous en retenez ?
60 ans d'Europe, et surtout la façon dont le débat sur l'Europe est porté dans le cadre de la présidentielle, moi j'aimerais bien qu'on sorte de ces débats binaires entre pro-européens et anti-européens, aussi primaires les uns que les autres. Quand on écoute les uns et les autres, on se rend très bien compte que les conceptions de l'Union européenne, et non pas de l'Europe d'ailleurs, peuvent être très différentes, et ce que l'on met dans le contenu de cette Europe-là est quelque chose, effectivement, sur lequel il faut travailler. Je voudrais revenir un peu, justement, à l'origine des moi, ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui à la gauche européenne, c'est le manifeste de Ventotene. Le manifeste de Ventotene, c'est un manifeste qui a été porté par quelqu'un qui s'appelle Altiero Spinelli, dont un des bâtiments porte le nom. Altiero Spinelli, c'était un communiste antifasciste qui voulait une Europe unie et libre, qui voulait d'abord et avant tout lutter contre le fascisme. C'est un des fondateurs du mouvement fédéraliste européen. Et je pense qu'il faudrait arriver à se rappeler de toute cette histoire. Nous y travaillons, à quelques-uns d'ailleurs autour de la table, dans le cadre du LEF Caucus, à l'intérieur de cette maison-là, pour porter un autre projet européen. Un projet européen qui ne soit pas uniquement basé sur les questions économiques. De quoi l'Europe est en train de mourir aujourd'hui ? De la priorité à l'économie et à la seule économie. Et une économie portée par les élites contre la majorité des citoyens européens. C'est de ça que l'Union européenne est en crise. C'est dans ça que les citoyens européens ne se reconnaissent plus aujourd'hui. Moi, je ne suis pas anti-européenne, je suis pour une autre Europe. Je pense qu'il faut créer le rapport de force pour changer les choses à l'intérieur de cette Europe, afin que les citoyens européens puissent de nouveau se reconnaître dans cette Europe-là.
Changer de rapport de force avec qui contre qui, en quelques secondes.
Mais comme cela a été dit autour de la table, je crois qu'il faut mettre les choses à plat, discuter compétence par compétence, j'ai envie de dire. Parce que je crois que c'est Édouard qui disait qu'il était pour une Europe Edouard politique. Martin. Ça veut dire quoi, une Europe politique ? Ça veut rien dire, une Europe politique. Quelles compétences on veut donner à l'Union européenne ? Quelles compétences sur lesquelles on est prêt à travailler ensemble ? Vous disiez vous-même en introduction de ce débat que l'Europe, c'était la paix, la démocratie, l'état de droit et la lutte contre les discriminations. Sur tous ces points-là, où on en est aujourd'hui ? Comment on réagit quand on voit la Pologne, la Hongrie bafouer l'état de droit et la démocratie et les valeurs de l'Union européenne ? Et pas seulement sur la question des migrants, en règle générale. Sur la question de la justice, sur la question de la liberté de la presse, sur tous ces sujets-là, l'Union européenne est taiseuse. Et ce n'est pas normal. Pourquoi l'Union européenne est taiseuse ? Parce que les chefs d'État et de gouvernement font passer leurs intérêts égoïstes, nationaux, avant toute autre chose. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas la question de la Hongrie à l'ordre du jour ? Parce que M. Viktor Orban est membre du Parti populaire européen. Quand est-ce qu'on arrêtera à sortir de ces états de choses pour regarder le droit tel qu'il est et le respect du droit tel qu'il devrait être. Tant que nous serons là-dedans, nous arriverons, nous verrons nos chefs d'État et le gouvernement se rassembler, se réunir uniquement pour protéger l'euro. Et on se demande pourquoi faire contre l'intérêt des citoyens européens, à coup de dumping social et de dumping fiscal, en laissant la Pologne bafouer le droit européen à coup de travailleurs détachés, alors qu'elle laisse rentrer 500 000 Ukrainiens chaque année sur le territoire avec des visas de travail. Tout ça, ce n'est pas l'Europe dont je veux. Je veux une Europe moi, dans lequel les citoyens puissent se reconnaître, puissent être protégés. Et cette question-là, elle doit être au cœur d'une autre Europe.
Alors, Marie-Christine Berger, vous évoquiez l'euro, on va évidemment y venir dans la deuxième partie de l'émission, mais tout de suite, on va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète. A tout de suite.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, nous sommes à Bruxelles, au Parlement européen, car jamais l'Europe n'a tenu autant de place dans une élection européenne. À tel point que cette élection prend le chemin des référendums pour ou contre l'Europe. 6 eurodéputés, soit un par groupe parlementaire, ont pris place autour des micros de Carrefour de l'Europe. Je vous les représente. Nathalie Griesbeck, Modem, elle soutient Emmanuel Macron. Gilles Le Breton, Front National, Marine Le Pen, Constance Le Grip, Les Républicains, François Fillon, Éloire Martin, Parti Socialiste, Benoît Hamon, Michel Rivasi, Europe Écologie Les Verts, elle aussi, Benoît Hamon, et Marie-Christine Vergiat, Jean-Luc Mélenchon, Front de Gauche. À mes côtés, bien évidemment, Céline Chaun qui va réagir. Et avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction du Courrier International à Paris. Bonjour Corentin Pénard-Goyard.
Bonjour Daniel.
Il n'y a pas que les eurodéputés qui s'intéressent à l'élection présidentielle française. La presse européenne se passionne, elle aussi, pour cette élection. Et évidemment, elle s'inquiète.
Ça c'est sûr, hein. Les journaux de nos voisins européens, eh bien, ils ont bien remarqué qu'avec cette campagne, alors on va lire non seulement le prochain président français, mais qu'il s'agit aussi d'un vote pour ou contre l'Europe. Alors d'ailleurs, c'est une des raisons qui explique pourquoi cette présidentielle elle est autant suivie à l'étranger comme aucune autre auparavant. Et à ce propos, mardi dernier, eh bien, le site d'information Politico, qui est basé à Bruxelles, il a publié un article très intéressant qui lie le destin de la France à celui de l'Union européenne, et qui commence par ces mots assez forts. Alors je cite, « Quand la France éternue, c'est l'Europe qui attrape une pneumonie. » Alors forcément, le site d'info, il parle de l'importance qu'a la France, tant au niveau historique qu'actuellement dans le processus européen, et aussi dans le cœur politique de nos voisins. Et Politico explique que les Français, eh bien, ils n'ont jamais été confrontés à un choix aussi précis et radical sur la ligne de l'Europe, qu'on peut résumer à trois options selon les candidats. Un retour à l'Europe des Nations avec François Fillon, une avance rapide vers davantage d'intégration européenne avec Emmanuel Macron, et bien sûr, bye bye l'Europe avec Marine Le Pen. Et forcément, la candidate du FN, aujourd'hui, c'est la principale préoccupation de la presse européenne, qui pense que dans son ensemble, eh bien, une sortie de la France de l'UE, ce serait catastrophique pour tout le continent, et pas seulement pour la France. Mais aussi, petite surprise quand même pour les médias étrangers, ils ont découvert pendant le débat de mardi soir que presque tous les candidats français avaient fait le choix, eh bien, de taper sur l'Europe pendant cette campagne. Alors par exemple, le journal allemand Die Zeit titrait mercredi matin après le débat sur la bataille française autour du Frexit et était assez consterné, il faut le dire, hein, de voir l'acharnement des différents candidats, soit contre l'euro ou alors les travailleurs détachés européens et même l'Union européenne tout court. Alors l'hebdomadaire allemand, il se montre même assez terrifié d'avoir trouvé pire que Marine Le Pen sur le sujet, avec François Asselineau qui lui souhaite un Frexit dès son entrée en fonction, sans même avoir recours à un référendum sur la question. Bon alors on va le rassurer quand même, hein, en se disant qu'il est à moins de 0,5% des intentions de vote dans les sondages.
Alors Céline Chaun, on sent bien que la presse européenne est un peu paniquée, ou en tout cas interloquée, intéressée, on l'a entendu entre Corentin Pénard-Goyard de Courrier International. Vous ressentez ça auprès de vos confrères et consoeurs que vous croisez, cet intérêt, cette passion, et voire cette inquiétude?
Surtout de l'inquiétude, effectivement, on se rend bien compte qu'on est à un moment très important dans la construction de l'Union européenne par le biais de ce futur de la France. Donc effectivement, c'est de l'inquiétude et aussi beaucoup de questions de voir vers où les Français vont se diriger. Est-ce qu'on peut croire les sondages? Ça, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup parmi les collègues. On se demande si tous ces chiffres qui sont actuellement, qui se trouvent actuellement, peuvent être consultables ou non. Donc c'est effectivement l'inquiétude qui prime, mais un petit peu la consternation d'être arrivé à ce niveau-là du débat.
Céline Chaun, je rappelle que vous êtes la correspondante à Bruxelles pour le quotidien La Croix, que vous avez écrit L'Europe des citoyens aux éditions du Cherche Midi. Alors quitter l'Europe, abandonner l'euro, globalement 7 candidats sur 11 y sont favorables, et c'est paradoxal car tous les sondages mettent en évidence qu'environ 70% des Français sont pour la monnaie commune. Alors on dit souvent que les politiques ne sont pas en phase avec la population, et à moins que les Français soient schizophréniques, ce qu'on peut pas totalement exclure, cela semble être le cas. 7 Français sur 10 favorables à l'euro et 7 candidats sur 11 qui veulent l'abandonner. Alors, Gilles Le Breton, Marine Le Pen en a fait une priorité de son programme. Est-ce que c'est une approche purement idéologique de la part du Front National ?
Non, ça n'a rien d'idéologique. Nous avons une approche très pragmatique. Nous constatons que l'Union européenne est un échec et nous pensons que l'avenir de la France passe par le retour à sa souveraineté. Et il ne peut pas y avoir de souveraineté véritable sans souveraineté monétaire. Donc, on est d'une parfaite cohérence et c'est ce que Marine Le Pen explique dans sa campagne. Nous nous reprochons à l'euro d'être une monnaie trop forte pour l'économie française. En revanche, c'est une monnaie qui convient très bien à la situation de l'économie allemande et donc ça a contribué à creuser l'écart entre l'Allemagne qui a tiré profit de l'euro et la France qui en a pâti. Et je ne vous parle même pas des pays d'Europe du Sud qui sont encore beaucoup plus perdants que nous. J'ai cité la Grèce tout à l'heure, mais si la Grèce est dans une situation
de quasi faillite,
c'est à cause de la monnaie en grande partie.
Les Grecs n'ont pas voulu quitter l'euro. Il y a un moment décisif quand ils pouvaient le faire. Ils ont choisi de rester dans l'euro.
Oui, enfin moi, écoutez, j'essaye de défendre les intérêts des Français, donc les Grecs font ce qu'ils veulent, ils sont souverains. Moi, je pense, si vous me demandez mon avis, qu'ils ont eu bien tort. Quand Tsipras est arrivé au pouvoir, il s'était plus ou moins engagé, en réalité, à quitter l'Union si l'Union ne cédait pas un certain nombre de revendications. Il n'a pas tenu sa parole, bon, c'est l'affaire des Grecs.
Alors, est-ce que c'est le principe de réalité qui s'est imposé à Tsipras, qui s'imposerait à Marine Le Pen si elle venait au pouvoir?
Alors, on ne peut pas comparer la Grèce et la France. Nous sommes quand même dans des situations très différentes et nous avons la conviction que nous avons les moyens de revenir à cette souveraineté monétaire. D'ailleurs, je vous rappelle que ça n'a rien de stupéfiant puisque pendant des siècles, finalement, la France a vécu avec sa monnaie nationale et ce ne se portait pas si mal. Hein. Si on a décidé de marcher ensemble dans l'aventure européenne, c'était pas du tout parce que la France était en crise économique, elle ne l'était pas. Donc ça, c'était un choix idéologique. Nous, en revanche, nous sommes pragmatiques, nous constatons que cette organisation dessert les intérêts de la France et c'est la raison pour laquelle nous voulons en sortir. Et l'intérêt d'une monnaie nationale, pour dire les choses brièvement, c'est que ça nous permettra de reprendre le contrôle de notre destin, de procéder à une dévaluation qui permettra de doper nos exportations, pour ne prendre que cet exemple. Et nous pensons que très rapidement, cette opération sera très fructueuse, et d'ailleurs, beaucoup d'économistes, qui ne sont pourtant pas du tout du Front National, ont la même opinion que nous. Il y a un débat qui est ouvert sur la question parmi les économistes les plus réputés. Je pense par exemple à Jacques Sapir, qui est assez proche de nos positions et qui pourtant n'est pas du tout chacun de ça du Front National.
Donc autour de cette table, chacun va avoir un économiste à mettre en évidence et on sait qu'ils sont tous distingués par définition.
C'est pour que les auditeurs comprennent qu'il y a véritablement un débat à ce niveau-là aussi. Il est trop facile de nous présenter, nous, au Front National, comme étant systématiquement dans l'erreur. Le débat existe. Et en dehors de nous.
Édouard Martin, enfin, vous aviez tous envie de réagir, mais Édouard Martin, vous avez été le premier à lever le doigt.
Lorsqu'on a peu d'idées, on fait référence aux uns
Edouard
aux autres.
Édouard Martin, parti socialiste, Benoît.
Oui. Moi, même malgré les inquiétudes des uns et des autres, moi, je reste persuadé que Marine Le Pen ne gagnera pas la présidentielle, sûr et certain. Parce que je reste persuadé que, notamment dans la société civile et une grande majorité des travailleurs sont pour l'Europe, malgré les défaillances
pour
de l'Europe.
Aussi.
Pour l'euro, oui. 1993, et là je vais rafraîchir la mémoire de monsieur Le Breton. À l'époque, effectivement, on s'est fait une guerre sans nom au sein de l'Europe, et notamment l'Europe du Sud, la France, l'Italie, l'Espagne, etc., où chacun à tour de rôle a dévalué sa monnaie pour essayer, en étant en pleine crise, pour essayer de capter des parts de marché. Et je pense notamment au secteur de l'acier. On l'a payé très cher, les uns et les autres. Regardez les dizaines de milliers de suppressions d'emplois et les dizaines d'entreprises dans chaque pays qui ont fermé à cause de cette petite guéguerre idiote et suicidaire. Aujourd'hui, au moins l'euro ne peut pas permettre ça. Mais pour revenir, il faut aussi mettre en adéquation les actes et les propos. Lorsque Monsieur Le Breton dit que la France peut mieux se protéger contre les différences concurrence déloyale, pourquoi n'avez-vous pas voté pour l'ajustement carbone aux frontières, justement qui aurait permis d'avoir des critères environnementaux et sociaux sur les produits notamment importés de Chine? Pourquoi vous n'avez pas voté pour l'harmonisation sociale? Pourquoi, lorsqu'il y a des votes, notamment dernièrement à Strasbourg, sur l'égalité des femmes, qui est loin d'être acquise, vous votez systématiquement contre? Donc, je suis pas sûr que pour les Français, le danger soit l'Europe. Je suis convaincu que le danger pour les Français, y compris sur les libertés, c'est plutôt le Front National. Ça, j'en suis même certain.
Alors, on va donner la parole à Nathalie Grisac, mais Gilles Breton, vous avez été interpellé.
Oui, j'aimerais quand même répondre. Alors, sachez que sur la Chine, nous avons toujours essayé de défendre les intérêts européens face à la Chine.
Justement carbone. Vous avez voté contre, monsieur.
Oui, mais sur l'acier chinois, par exemple, nous sommes favorables. Si. Ah, mais j'ai vérifié parce que j'ai lu vos interventions où vous nous accusiez de cela. Ça n'est absolument pas vrai.
Vous essayez de prendre à vous Edouard le travail Martin, que vous n'avez pas fait.
On va essayer d'élargir le débat et pas laisser uniquement Edouard Martin, Gilles Breton.
Rendons
à César ce qui appartient à César.
Monsieur Martin, dans la commission des affaires juridiques, j'étais l'auteur d'un projet d'avis qui mettait en garde solennellement le Parlement européen contre la Chine. Eh bien, ce projet d'avis a été...
2014, on travaille dessus.
Non, mais moi, je vous parle 20 décembre 2016.
On n'a pas entendu votre avis en jury.
Oui, mais ça ne m'empêche pas d'intervenir. Vous permettrez que je puisse agir quand même.
Vous avez voté contre le
consommant
carbone aux frontières, et c'est la Chine qui était particulièrement visée, puisque les importations d'acier sont chinois.
Alors, je vous rappelle qu'au départ, la question était sur l'euro. Est-ce que l'euro est une bonne chose pour l'Europe ou non? 70% des Français veulent garder l'euro. 7 candidats sur 11 envisagent de quitter l'euro. Nathalie Griesbeck, vous représentez Emmanuel Macron, qu'on présente généralement comme le plus européen des candidats. Évidemment, il est favorable à l'euro. Votre intervention.
Quand j'entends les propos du représentant du Front National, je suis bien contente d'être aux côtés d'Emmanuel Macron, qui est lui vraiment de manière très claire et très ferme en faveur de la poursuite de la construction de l'Union européenne. Parce que vous avez dit... que on allait tous citer un économiste, qu'on tiraillerait dans chacun. Eh bien, pour moi, l'économiste en chef sont les citoyens européens et notamment les Français. Et je pense que ce serait un cataclysme de sortir de l'euro, ne serait-ce que pour l'épargne des Français, pour la charge de la dette aussi pour notre pays. Et il y a aussi de nombreux spécialistes qui reconnaissent cela. Et maintenant qu'on rentre un peu, c'est vrai, tardivement, dans l'examen par les citoyens français, par nous les Français, de ce qu'il y a dans les différents projets, eh bien je crois qu'il y a un certain nombre de Français qui se rendent compte que ce que vous proposez aux côtés de Madame Le Pen est tout à fait contre-productif par rapport à leur espérance, à leur espoir. Donc ça, c'est pour vous dire que moi, je suis démocrate, j'entends ce que vous dites, mais je le combats parce que j'ai pas envie que mon pays soit vraiment le dernier de la classe et que je pousse avec toute l'équipe parce que, justement, il y ait une Europe plus approfondie, plus consolidée, des politiques européennes, de l'énergie, de la recherche, du numérique, de tout ce qui peut faire en sorte que notre continent européen, qui est un petit continent de même pas 500 millions de citoyens, puisse avoir des atouts dans son jeu pour lutter dans la mondialisation. Il a parlé de l'acier, on est de la même région. Évidemment qu'on peut pas regarder les trains passer en se disant replions-nous, dormez tranquille, c'est impossible. Les citoyens européens, dont font partie les Français, attendent de nous de la sécurité intérieure, peut-être qu'on l'évoquera, bien entendu, et de la sécurité vers l'extérieur, et de la stabilité, de la recherche de prospérité. À cet égard, le projet d'Emmanuel Macron propose d'imaginer et de créer une Europe des cercles. Ça permet de consolider l'Europe des États qui partagent la même monnaie et qui ont décidé de le faire en souveraineté et qui doivent donc avoir des instruments. Un ministre des Finances européen, moi je suis pas très favorable à un parlement spécifique puisque ça nierait l'utilité du Parlement européen. Un respect... oui, il y a des différences, mais on peut s'entendre. Mais moi, je m'inscris par rapport à la question que vous avez posée en premier lieu aux représentants du FN pour inviter vos auditeurs à bien regarder de près et à ne pas se laisser duper par des mots qui nous amèneraient plus bas que nous sommes. Et donc, cette Europe des cercles, du cercle de la zone euro, c'est un système qui permettrait aussi de travailler le socle des droits sociaux dont on a parlé dans la salve précédente, c'est-à-dire pousser donc les politiques européennes avec tous ceux qui sont d'accord et qui agrégeront ceux qui le souhaitent après.
Constance Le Gris, est-ce que un euro qui fonctionnerait à plusieurs vitesses, c'est-à-dire déjà la zone euro serait le premier cercle qu'évoquait à l'instant Nathalie Griesbeck, est-ce que c'est une piste de travail pour François Fillon, le candidat des Républicains que vous représentez ici?
Alors, je rebondis juste par rapport à la manière dont vous avez formulé votre question. C'est pas un euro à plusieurs vitesses, hein. Voilà. Non, non, nous sommes résolument favorables au maintien de l'euro, bien sûr, au maintien de la zone euro. Et François Fillon fait des propositions extrêmement fortes et extrêmement précises pour améliorer la gouvernance de la zone euro, pour faire que cet ensemble de pays qui ont la monnaie commune en partage soit plus organisé, soit plus structuré et puisse aller plus loin, peut-être, dans le rapprochement de leur politique, dans la convergence d'un certain nombre de leurs politiques. Mais bien évidemment, la sortie de l'euro représenterait un appauvrissement du peuple français absolument considérable, une explosion de notre dette, dont je rappelle qu'elle est déjà à l'heure actuelle formulée en euros, hein, bien évidemment, de l'ordre de 2200 milliards d'euros, une explosion du taux d'inflation également. Alors peut-être que l'avantage compétitif, entre guillemets, vraiment d'une dévaluation compétitive durerait ce que durent les roses, 15 jours, 3 semaines, mais qu'il y aurait évidemment immédiatement à faire face à des mesures, des rétorsions et donc des droits doit augmenter, etc., etc. Donc je ne crois pas que le chemin de la dévaluation compétitive, dont on voit bien que chaque fois que dans le passé on a cherché à le suivre, puisse être une voie d'avenir. Au contraire, dans un monde de plus en plus globalisé, où on voit bien que ce sont les grandes régions du monde qui s'organisent comme des entités puissantes, coordonnées, structurées, avec une puissance économique, une puissance monétaire, une puissance commerciale, se recroqueviller, se replier derrière des lignes maginaux, vers un retour en arrière, le franc derrière des frontières tirées du passé serait vraiment revenir en arrière d'une manière qui serait extraordinairement appauvrissante pour l'épargne des Français, pour le pouvoir d'achat des Français, pour les retraites par exemple, et nous savons à quel point les retraités en France ont à souffrir de la sortie de l'euro. Et donc clairement, on améliore la gouvernance de la zone euro, mais on maintient l'euro, bien sûr.
J'ai compris. Céline Chaune voulait intervenir avant que je donne la parole à Marie-Céline Vergia. Front de gauche. D'un mot.
Une toute petite parenthèse sur le fait que dans ce livre, l'Europe des citoyens, ce futur de l'Union européenne qu'on a interrogé, on s'est longuement rendu compte que peut-être que cette zone euro n'était pas le cercle le plus petit qu'on allait utiliser et qu'on pouvait commencer à travailler à moins que 19.
Marie-Christine Vergia, vous représentez le Front de gauche et Jean-Luc Mélenchon qui lui est tenté d'abandonner l'euro au profit du franc, je crois. Mais j'en suis pas sûr.
Non, je crois pas qu'il dise les choses comme ça.
Vous allez me dire ce qu'il dit, hein.
Je crois que Jean-Luc Mélenchon a coutume de dire l'Union européenne, on la change ou on la quitte. Et à faire des propositions pour changer l'Europe. Et je crois que c'est ça qui est fondamental. Donc je reviens à ma phrase de tout à l'heure, de dire il n'y a pas d'un côté les pro-européens et d'autre côté les anti-européens. Il y a un certain nombre de gens qui veulent changer cette Europe-là, parce que cette Europe-là est mortifère. Et avant de se dire quittons l'Europe, quittons l'euro ou restons dans l'euro, c'est un euro pour quoi faire ? Un euro pour quoi faire ? Si c'est, comme actuellement, pour organiser la concurrence entre les pays, entre les peuples, pour organiser le dumping social et le dumping fiscal auquel les États européens sont incapables de mettre un frein, cette façon de faire ne peut pas continuer. Parce que cette façon de faire, elle alimente les nationalismes et le repli sur soi. On continue à laisser les plus riches choisir le pays dans lequel ils ont plus intérêt à aller s'installer. On continue à faire du dumping social avec les travailleurs détachés. Ou alors on essaye de travailler autrement. Et je voudrais rectifier par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Monsieur Tsipras ne s'est jamais engagé à quitter l'Union européenne. Parce que les citoyens grecs en 2015 étaient profondément attachés à l'Union européenne. Mais compte tenu des politiques menées à l'égard de la Grèce depuis 2015, avec un Jean-Claude Juncker qui a expliqué qu'il fallait que la démocratie se plie au traité européen, comme la France a dû se plier au traité européen en 2005 grâce à monsieur Nicolas Sarkozy, on est dans des...
On a fait une élection présidentielle et au cours du débat de l'entre-deux-tours, il a été clairement dit
quand un référendum a été fait, on ne défait pas un référendum par une autre élection. On défait un référendum par un nouveau référendum. Monsieur Sarkozy n'a pas voulu soumettre le traité de Lisbonne.
Sarkozy était l'ancien président. On est dans la prochaine élection présidentielle.
Comme les Irlandais qu'on a fait voter trois fois parce que le référendum est obligatoire en Irlande. Et si on revient sur l'actuel président de la République, il aurait été mieux, pour éviter la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, que Monsieur François Hollande, comme il l'avait promis, propose de ne pas ratifier
ratifier le traité budgétaire que nous appelons le traité austéritaire. Parce que c'est ce traité, notamment, qui enfonce les citoyens européens dans les inégalités sociales, qui fait que les uns et les autres se dressent. Et ça, ça ne peut pas continuer. Donc il faut effectivement créer des échanges, des rapports de force, discuter sur ce que nous voulons faire de cette Europe-là, ce que nous voulons faire de cette monnaie. Hein, une monnaie, elle doit être au service de politique et de politique sociale et fiscale notamment, et nous, nous préconisons une harmonisation sociale et fiscale vers le haut, dans l'intérêt des citoyens européens et non pas dans l'intérêt des multinationales.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, nous sommes à Bruxelles au Parlement européen. Le thème de l'émission, vous l'avez compris, l'Europe dans la campagne présidentielle, et elle passionne. Nous sommes avec l'eurodéputée Nathalie Griesbeck, Modem, elle représente Emmanuel Macron. Gilles Le Breton, Front National, il représente Marine Le Pen. Constance Le Grip, des Républicains, François Fillon. Édouard Martin, Parti Socialiste, Benoît Hamon. Michel Rivasi, Europe Écologie Les Verts, Benoît Hamon aussi. Et Marie-Christine Verja, que l'on vient d'entendre, Front de Gauche, elle représente Jean-Luc Mélenchon. L'Union européenne est un espace de libre circulation des biens, des services, des capitaux et donc des personnes. Remettre en cause la liberté de circulation, c'est remettre en cause l'un des fondements de l'Union européenne. Tout le monde est d'accord pour renforcer le contrôle de la frontière extérieure de l'Union européenne, en tout cas je le crois. Mais faut-il rétablir des postes frontières entre la France et la Belgique, par exemple, compte tenu de l'accroissement des échanges qui, en 2017, ne sont pas comparables à ceux des années 70? Et d'ailleurs, est-ce que c'est techniquement possible? Michel Rivasi, on ne vous a pas entendu là précédemment. Vous avez représenté Europe Écologie Les Verts et vous soutenez Benoît Hamon. Est-ce qu'on peut imaginer des frontières à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur de l'espace Schengen? Est-ce que c'est raisonnable, imaginable, compte tenu de l'extraordinaire nombre d'échanges de capitaux, de biens et de marchandises qui s'est évidemment multiplié par 10, 20, 30 depuis une quarantaine d'années?
Mais écoute, c'est un peu le même débat sur l'euro. L'euro, c'était une très belle idée d'avoir une monnaie commune. Ça a évité de changer de l'argent à chaque frontière, etc. La liberté de circulation au niveau des États européens, c'est très important. L'euro, c'est pas le problème de la monnaie, c'est le problème de la gouvernance. C'est le problème de qui établit justement ces différences de niveau. Mais c'est pas du tout le problème de la monnaie, c'est très chouette d'avoir comme ça, vous voyez, des projets communs. L'Europe manque de projets, et dans les projets, je mets l'humain. Alors, de nous dire, maintenant, il faut mettre des gardes-frontières de partout. Il y a un droit international qui existe, le droit d'asile. Eh bien, quand j'ai vu que même la Commission, là, avait dit il faut répartir 150 000 personnes au niveau de l'Europe, que chaque pays ait son quota. Bon, les Hongrois et les Polonais, pareil. Et qu'on va pas faire la différence entre musulmans et chrétiens. Tout le monde participe. Et qu'on a vu que la Pologne refuse, que la Hongrie refuse, ils veulent sélectionner. Et que nous, on devait en accepter 30 000 en France, on n'a même pas accepté 5 000. Donc, comment voulez-vous que si on se replie sur nous-mêmes, eh bien, quand Mitterrand disait « le nationalisme va entraîner la guerre », c'est exactement ça. Et pourquoi j'en veux au Front National? C'est que vous allez fomenter la guerre. Et ça, c'est terrible. Vous devenez des souverains sans mémoire. Et au niveau de l'Europe, on a de la mémoire. Et on veut des grands hommes et des grandes femmes.
Gilles Le Breton, je vais vous donner la parole évidemment, mais Constance Le Grip, est-ce que François Fillon, par rapport à Schengen, quel est son point de vue? Il est pour concentrer, renforcer les frontières extérieures, supprimer Schengen ou pas, ou quoi? Qu'est-ce?
Il est bien sûr pour assurer un contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne de façon renforcée, plus efficace, plus coordonnée. Mais contrôler une frontière extérieure, ça ne veut pas dire fermer la frontière, ça veut dire simplement choisir d'ouvrir, quand on le souhaite, d'avoir simplement la maîtrise de son destin, la maîtrise de ses frontières. C'est vraiment l'un des trois grands domaines sur lesquels il nous faut plus d'Europe, à côté de la monnaie et puis de la défense. On te dira peut-être un mot. La question des frontières est absolument essentielle et elle doit être appréhendée et traitée au plan européen, au plan global. Pas pour fermer, pas pour construire une Europe forteresse, mais pour retrouver la maîtrise de son destin et donc la maîtrise des flux migratoires. Mais ce sont clairement des défis. Celui de l'explosion démographique dans un certain nombre de pays africains, par exemple, celui de l'accueil de réfugiés politiques ou de réfugiés de guerre que nous devons affronter ensemble de manière coordonnée, concertée, en assurant ensemble de manière extrêmement resserrée, et donc ça veut dire certainement des actes politiques nouveaux en matière de construction d'une véritable politique européenne commune d'asile et d'immigration. Le problème, c'est quand tel ou tel pays européen, de façon quasi unilatérale décide d'ouvrir soudainement ou au contraire de fermer soudainement, de prendre des mesures tout à fait unilatérales qui, dans un espace de libre circulation, viennent totalement bouleverser l'esprit et l'essence du projet européen. Et pour Schengen, le traité de Schengen, qui a quand même une bonne vingtaine d'années, doit pouvoir être réformé, révisé l'aune des nouveaux défis et à l'aune tout simplement des pressions migratoires réelles qui s'exercent en ce début de XXIe siècle. On a des propositions très précises là-dessus.
Gilles Breton, Front National, ce que vient nous dire Constance Grip, c'est qu'on ne peut pas faire comme si on était seul au monde, que ce que vous lui répondez.
Alors nous considérons qu'il ne faut ni Schengen 1 ni Schengen 2 que préconise Mme Grip. Nous ne voulons pas de Schengen du tout. Nous voulons que la France se retire de l'accord de Schengen. Marine Le Pen est extrêmement claire.
Si je comprends bien, des frontières partout, par exemple le Thalys que l'on prend, c'est le train qui va de Paris à Bruxelles et il y en a 24 par jour.
Mais bien sûr que non, voyons.
Expliquez-moi.
Alors comment on fait ça m'intéresse.
Permettez que je puisse parler. Nous voulons rétablir le contrôle aux frontières nationales, ce qui n'exclut pas Marine Le Pen indiqué dans son programme d'ailleurs, qu'il y aura des mesures spécifiques pour, par exemple, faciliter le franchissement des frontières pour les travailleurs frontaliers. Donc il ne s'agit pas de mettre des barbelés partout de façon indistincte, il s'agit d'être en mesure de contrôler qui rentre sur le territoire français. Donc pour les frontaliers, par exemple, eh bien ils auront un système de cartes particulières qui leur permettra de venir. Mais cela dit, ça vous va bien de vous moquer.
Mais permettez-moi de vous dire une chose. Un petit peu dans le concret, si vous permettez.
Oui.
Dites-nous concrètement, parce que c'est facile, l'anathème, c'est facile, les idéaux. Dites-nous concrètement comment on fait.
Nous établirons un système de cartes avec des puces informatiques qui permettront aux frontaliers de passer beaucoup plus rapidement que les autres.
Merci à tous d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation à Bruxelles, au Parlement européen, Christian Backertz, à Paris, Ludivine Amado. Vous pouvez réécouter cette émission sur votre ordinateur via RFI.fr ou sur votre tablette ou votre smartphone via les applis mobiles RFI. Elles sont gratuites. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Lesescal, où que vous soyez, à Bruxelles, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.